Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chers auditeurs, nous poursuivons la lecture du livre de Yves Duteil, « Et si la clé était ailleurs ?» chez Mediaspol. Dans ce témoignage de vie qu'il a partagé avec nous et que nous terminerons de lire le prochain épisode, Yves Duteil a partagé ce qui fait le fil conducteur de sa vie, sa quête de sens, ses sentiers intérieurs, ses interrogations fondamentales. « La spiritualité guide ma vie », nous a-t-il dit. Je relève quelques phrases que nous relirons tout à l'heure, mais pour le moment, je souligne ceci. La bienveillance est la loi du faible, la défense du plus vulnérable. C'est l'éloge de la fragilité et l'école du respect. Nous sommes sous la sauvegarde les uns des autres. Les bouddhistes appellent cela l'interdépendance. La charité chrétienne y puise ses principes de protection. Nous reprenons notre lecture avec le thème « La force indomptable de l'immatériel ». À quoi rime la poésie ? Depuis toujours, j'écris sans savoir pourquoi j'en éprouve tant de bonheur, un sentiment d'urgence parfois, et l'impression confuse d'un partage utile, dénué de prétention mais chargé de sens. L'art s'appelle aussi la création. L'œuvre désigne aussi le travail d'une vie. Les mots ont une portée symbolique. On se reconnaît dans leur lignée, on se bat pour leur culture comme un héritage spirituel, la mémoire de l'essentiel, l'empreinte de nos pas dans le ciel. Le cœur n'oublie rien, il garde le pire et le meilleur, il bat pour aimer et se bat pour qu'on l'aime. Depuis la nuit des temps, comme un élixir d'éternelle jeunesse, une cohorte d'artistes nous a livré leur plus belle moisson, un fleuve de talents multiples, insaisissables, ardents et passionnés. La poésie est dans le regard, dans le geste, dans les sentiments qui nous portent à chanter, à rire, à nous émouvoir. Parmi les déferlantes d'humeur ou de pensée que dispersent les réseaux sociaux, dans tous ces mots qui tourbillonnent en Wi-Fi, en Bluetooth ou en 4G, par mail ou par SMS, il y a nos petits signes d'amour, les messages que l'on garde dans nos téléphones, source inépuisable de rêves et d'inspiration. Notre époque, JIC, invente 1000 nouveaux moyens de partager l'émotion, même au bout du monde. Nous avons pris l'habitude d'être connectés et, sous le flot des données qui nous submergent, nous risquons peut-être de perdre de l'altitude, de penser en rase-motte, de sauter à l'élastique en pensant qu'on s'envole. Nous confions peu à peu notre mémoire à des machines qui nous supplantent. La calculette compte beaucoup pour nous. Internet appelle notre culture générale d'un simple clic. Surinformés, nous lisons moins. Nous consommons plus, nous sommes devenus un vivier de bons clients dont on surveille les appétits, les désirs, les goûts à travers des algorithmes d'une efficacité à couper le souffle. Pourtant, en miroir, on voit aussi se développer la pratique de la méditation comme une spiritualité laïque, le besoin d'écouter à nouveau la voix du silence. Loin des dogmes et des ornements sans cérémonie, on cherche à s'appartenir sans s'aliéner à une croyance pour redécouvrir en soi la dimension de l'univers et laisser libre cours à l'esprit qui nous porte. Notre intimité spirituelle a la fragilité d'un jardin de verre, mais elle possède aussi la force indomptable de l'immatériel. Sa capacité de résistance peut se révéler invincible. C'est notre liberté secrète, l'espace inviolable de pensées silencieuses qui fait de nous que chacun est un être unique. Ce lieu virtuel échappe à toute définition. Les Tibétains affirment que la nature profonde de l'esprit est claire comme l'eau, tirée de le livre tibétain de la vie et de la mort, Rinpoché S, aux éditions Gallimard. La méditation vise à décanter cette eau pour lui rendre sa limpidité naturelle. Mais comme l'immobilité du chat, cette apparente quiétude nous prédispose à l'action. Elle n'est pas l'expression d'une vulnérabilité, elle est la force du samouraï, la technique du faible pour terrasser le géant. Nous sommes armés pour la douceur. L'odyssée de l'espèce. Nous sommes probablement aujourd'hui à un tournant de l'humanité. L'homme dans l'univers est une poussière dans l'océan, mais il parvient à structurer sa planète, à explorer les étoiles, à pétrir la matière à l'image de son rêve par la seule force de son esprit pour construire le monde à la démesure de son imaginaire. L'histoire est jalonnée de génies solitaires dont la vie aura changé celle de millions d'autres par une simple découverte, une idée révolutionnaire. Loin de l'homme augmenté, issu d'un mélange de biologie, de nanotechnologie, de biotechnologie, d'informatique et de sciences cognitives, que nous prédit le transhumanisme comme étant l'avenir de l'humanité, bien des génies d'hier étaient des hommes diminués, parfois des blessés de la vie, poussés à se surpasser. Louis Braille était aveugle, Beethoven était sourd, Stephen Hawking est lourdement handicapé. Notre époque est tumultueuse et imprévisible. Ses bienfaits sont immenses, fondateurs d'un futur qui s'écrit déjà sous nos yeux. Face à ce chaos apparent, nous sommes souvent un grain de sable ou une goutte d'eau. Mais dans le registre de l'invisible, un virus peut se révéler redoutable. Et la puissance de l'atome se mesure en mégatonnes. Notre faiblesse est donc toute relative. L'avenir n'est pas encore écrit. C'est un espace de création qui se recompose sans cesse, comme la forme des nuages au gré du vent, selon la lumière, l'altitude ou la saison. Nos choix, notre volonté ou le hasard se conjuguent autour de nos rêves pour écrire l'histoire au jour le jour. Et dans ce contexte mouvant, rien n'est hors de portée. Entre science et patience, nous sommes le fruit d'un mystère qui nous échappe encore, la main tendue vers la clé de l'énigme que nous saisirons peut-être un jour, pour nous apercevoir sans doute que les découvertes scientifiques d'aujourd'hui ne sont encore que les prémices d'une immensité qui peut en cacher mille autres. Nous sommes un petit pas dans l'éternité, mais quand même, attention à la marche. La médecine qui nous soigne, comme la recherche médicale, s'entoure de milliers de précautions éthiques destinées à éviter que le remède ne soit pire que le mal. La biocybernétique, elle, prend pour postulat que sa technologie apportera à nos corps une dimension surhumaine, sans effets secondaires ni dégâts collatéraux. On prétend même que l'homme immortel est déjà né. Pourtant, aucun de nos systèmes n'est adapté à une donne de cette sorte. Ni la sécurité sociale, ni les retraites. La machine nous chiffre, mais ne nous calcule pas. Le bénéfice de la science est une évidence. L'intelligence artificielle, sa rapidité et son aptitude à l'apprentissage nous sont aujourd'hui indispensables. Mais notre lente évolution naturelle ne pourra bientôt plus rivaliser avec celle exponentielle des technologies de pointe que nous développons. Si nous n'y prenions garde, l'idée que l'intelligence artificielle puisse dépasser l'intelligence humaine n'est pas loin. Les milliards de dollars investis par des sociétés privées outre-Atlantique ont relégué leur motivation philanthropique de partage des connaissances humaines derrière l'espoir d'un retour massif sur investissement. L'ordinateur, s'il calcule de plus en plus vite et s'il accumule les connaissances au-delà de ce que l'esprit humain peut appréhender, ne cultive ni la sagesse ni l'espérance. Sa bienveillance s'arrêtera là où se posera la question de sa propre survie. Notre pouvoir de le déconnecter pourrait faire de nous son principal ennemi. Le contrôle que nous lui conférons pourrait lui permettre de nous détruire. Au confluent de ces fleuves de savoir qui se rejoignent, au désir légitime de rétablir une justice biologique en redonnant sa chance à notre corps de survivre aux maladies et à notre cerveau de développer des fonctionnalités nouvelles, il manque une dimension éthique de prudence. Même si nous pouvons réparer, renforcer, prolonger la vie, stocker nos consciences et nos esprits sur des clés USB, nous devrons anticiper le pouvoir de l'intelligence artificielle avant qu'il ne nous dépasse. Pour ma part, j'aimerais vivre l'époque où, assisté de technologies d'exception, l'homme pourra remplir des missions extrêmes que sa seule condition biologique ne peut lui permettre aujourd'hui d'atteindre. Voler seul, voir la nuit comme en plein jour, endosser un exosquelette qui décuplerait ses performances physiques, s'affranchir de la pesanteur sur la Terre. Mais, faute d'un supplément d'âme qui m'impressionnerait vraiment, peu me chaud de savoir qu'un ordinateur ultra-performant a battu un champion d'échecs ou de jeux de go. Je préférerais de beaucoup que notre intelligence biologique nous rende aptes à mieux intégrer l'humanisme aux décisions essentielles qui engagent notre avenir à associer davantage l'humain dans les processus de défense, d'économie et de justice. L'évolution de nos capacités cognitives nous conduira demain vers des savoirs sans limites. Mais la régression de notre aptitude à comprendre l'autre est préoccupante. La puissance de la volonté, les mystères de l'effet placebo, le pouvoir de l'esprit sur la matière ou l'ultra-résistance des explorateurs de l'extrême laissent entrevoir une humanité en perpétuel dépassement d'elle-même. Mais si on hypothéquait sa propre évolution biologique par des processus technologiques non héréditaires, son système naturel de progrès ne risquerait-il pas d'éteindre, de s'éteindre faute de nécessité? Les systèmes, les lois et les institutions ont un tempo d'escargot, à l'inverse de la technologie, dont les progrès sont exponentiels. C'est pour cette raison que cette dernière a besoin d'un cadre éthique pour éviter à l'humanité les pièges du clonage, les chausse-trappes du commerce d'organes humains, les expériences dangereuses d'une science sans conscience. L'odyssée de l'espèce pourrait devenir la préhistoire d'une ère qui nous supplante par sa mécanique inexorable et inhumaine, qui pourrait faire de nous une espèce menacée par un système dominant issu de nos propres neurones. Les prémices de ce risque ont déjà des raisons de nous inquiéter. Nous sommes sous le regard de Big Brother, dont la bienveillance n'est pas la qualité première. La surveillance connectée qui s'exerce sur chacun de nous mériterait une extrême vigilance au niveau planétaire, qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Des lanceurs d'alerte qui ont pris le risque de dénoncer de telles dérives se retrouvent souvent devant les juges ou derrière les barreaux. Secret défense. Doit-on en déduire qu'il n'existe pas un droit de révolte? Notre conscience, forte de millions d'autres, n'en est pas moins individuelle. Et c'est dans la convergence des esprits qu'il faut sans doute chercher la force de réagir, de réfuter ce qui n'est pas dans notre éthique. J'ai choisi d'être résistant. Le libre arbitre que nous portons dans nos gènes nous porte à réfléchir, à juger, à décider, à refuser. La démocratie tente de porter ses valeurs au plan national et international. Des institutions d'arbitrage ou de justice se sont créées pour faire respecter et pour les sanctionner. Pourtant, nous sommes si loin du compte. Les systèmes de gouvernance, les principes de représentativité, le suffrage universel, se sont-ils montrés capables d'entraver les dérives du pouvoir? Force est de constater que trop souvent l'humanisme s'éloigne de la gestion humaine et que la collectivité se détourne de l'individu. Nous sommes des statistiques, des flux, des moyennes, des tendances. La machine nous chiffre, mais ne nous calcule pas. Un organisme froid nous évalue et un système mercantile nous séduit pour mieux tirer profit de nos désirs. Nous avons construit sur le modèle de notre idéal l'exact contraire de ce à quoi nous aspirons. Beaucoup de ce qui devrait en principe nous libérer nous a servi. La traçabilité de nos connexions fait de nous des sujets de convoitise. Nous sommes ciblés, non pour notre mieux-être, encore moins pour nous rapprocher du bonheur. Le principal crédit qu'on nous accorde est celui de notre carte. L'intérêt qu'on nous porte est celui de nos emprunts. Un œil sur notre bulletin de vote, l'autre sur notre fiche de salaire. Environnés de codes, d'identifiants, de mots de passe et de clés d'accès, cette hypersûreté destinée à nous protéger de toute intrusion risque à tout moment de nous enfermer dehors, faute de disposer, au moment voulu, des numéros magiques qui nous ouvrent notre univers personnel. Nous vivons dans la confidentialité illusoire des réseaux sociaux. Des pirates aux aguets sont en embuscade. Rien de ces technologies ne leur a échappé. Les milliards de comptes abritant nos pensées, nos amours et nos données personnelles sont stockés dans le cloud, ce nuage immatériel constitué en réalité de milliers de serveurs informatiques abrités dans d'immenses data centers qui brassent en permanence ces informations précieuses pour savoir ce que nous aimons, ce que nous achetons, quels sont nos goûts musicaux, nos choix culturels, qui sont nos amis et qui sur la base de mots-clés qui nous qualifient, nous rangent et nous modélisent. Vu sous cet angle, le progrès semble soudain moins désintéressé, plus tourné vers une réussite dont nous ne sommes pas le but, mais seulement le vecteur. On peut imaginer, partant de ce constat, ce que des esprits malveillants pourraient faire, ou font peut-être déjà, de ces parcelles de pouvoir rassemblées en de mauvaises mains. À l'échelle planétaire, Internet n'a ni frontières ni lois internationalement reconnues. Il transporte à la vitesse de la lumière les secrets qu'il glane dans nos vies, au hasard de nos imprudences, de nos ignorances ou de nos espérances. Si loin des âmes et des cœurs, on a plutôt l'impression d'une colonne de fourmis qui élèverait une armée de pucerons sur la tige d'une rose pour moissonner leur suc sous la fausse protection des épines. Il y a dans cette surenchère de dématérialisation une supercherie manifeste. En informatique, il y a des pièges à souris. Ça ressemble au bonheur, ça en a le parfum et l'aspect, mais sitôt qu'on l'acquiert, c'est lui qui vous possède. Les plantes carnivores ne font pas mieux dans la jungle, et les araignées ont inventé la toile. Faut-il pour autant désespérer de la nature humaine? Je ne crois pas. Ce nouveau pas de l'humanité pourrait aussi être porteur d'un immense espoir. Une société nouvelle pourrait émerger de l'évolution simultanée de notre sensibilité, de l'empathie naturelle et de l'intuition du cerveau humain en symbiose avec cette dynamique cyberpuissante qui respecterait la dimension philosophique de notre esprit. Ce sera sans doute le défi du troisième millénaire, un monde hyper-humaniste qui développerait le meilleur de nous et garderait l'individu au centre de l'évolution, connecté à sa conscience collective. Un supplément d'âme. Entre altitude et profondeur, nous avons vocation à comprendre l'univers. Entre l'espace vertigineux qui nous enveloppe et le secret de la conscience qui nous anime, il y a cette seconde unique, douloureuse, riche et foisonnante qui peut tout changer. Cet instant-là nous appartient. Il nous revient aussi de le protéger, de le défendre. La violence ambiante, le risque environnemental et le tumulte international n'inclinent pas à la sérénité. Ils révèlent pourtant le manque flagrant de cette dimension philosophique, l'impérieuse nécessité d'une vision éclairée. Dans ce creuset tourmenté où se forge notre avenir, sommes-nous clairvoyants ? La spiritualité ne résout pas cette énigme, mais elle pose les bases non négociables de notre éthique personnelle. Bienvenue dans ce frémissement sans nom et sans visage, dont le sens fait appel à une dimension différente qui nous éclaire, qui nous réchauffe et nous rassemble. C'est le domaine de l'intuition, où l'esprit parle au cœur, loin des dogmes et des écritures, dans l'héritage universel dont nous sommes les passeurs, une lettre d'un alphabet dispersé dans une encyclopédie en gestation. Le rêve pulvérise nos limites et nous projette vers l'inconnu. Il dessine une route là où il n'y a rien et révèle l'individu au sein de la multitude. Issu d'un chaos titanesque, que de roches en fusion, d'étoiles géantes et de vides glacés, l'homme descend du songe.
J'ai la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Ça me soulage et ça s'arrange, mais ça fait pas très sérieux. Pardonnez-moi, c'est très étrange, ça me prend là où ça veut. C'est la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. J'aurais pu, c'est héréditaire, être officier d'état-major, archevêque ou vétérinaire, clerc de notaire ou chercheur d'or. Le hasard et la génétique en ont voulu tout autrement. J'ai mis les doigts dans la musique, et c'est ainsi qu'à présent. J'ai la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Ça me soulage et ça s'arrange, mais ça fait pas très sérieux. Dans l'industrie, l'électronique, le commerce et les assurances, j'avais des dons pour la pratique, oui mais côté référence. J'ai la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Ça fait du bien dans les phalanges, mais ça fait pas très sérieux. Y'a rien à faire pour que ça change, faut se faire une raison. J'ai la guitare qui me démange, alors j'écris des chansons. J'ai appris à lire, à écrire, et je compte sur mes 10 doigts pour composer de doux délires, à partir de n'importe quoi. Ne croyez pas que je m'amuse, que je cours après les honneurs. Si je taquine un peu la muse, c'est pas pour les droits d'auteur.
La bienveillance, une urgence absolue. L'humain est la machine la plus sophistiquée que la nature ait engendrée. Fruit de milliers de siècles d'adaptation, capable de se penser et de se reproduire, d'inventer des langages et de comprendre son passé, ouvert à l'espérance et à la résilience, il développe des ressources inépuisables d'intelligence et d'imagination. Esquimaux, Touareg, Maasai ou Indiens d'Amazonie, il a domestiqué des espèces sauvages, dompté des environnements torrides ou glacés, apprivoisé des milieux hostiles et dangereux. Il a réussi à survivre à bien des cataclysmes. Subtile alliance de muscles et de cerveau, de force et de douceur, de résistance et de délicatesse, il sait aussi faire de sa vie un enfer. Sa puissance et sa conviction font de lui l'être le plus délicieux ou le plus détestable que la Terre ait porté. Cette génétique ouverte qui a peuplé la Terre de dinosaures, d'huîtres et de papillons a traduit cette même diversité dans l'éventail humain. Quel chronosome magique pourrait mettre tout ce tumulte en harmonie? Quel élément fondateur de l'humanité pourra constituer la brique essentielle pour que les mots « ensemble », « conscience » ou « partage » soient davantage qu'une aspiration? Comme si la poésie de l'enfance ne pouvait survivre aux dures réalités du monde adulte. Et pourtant, cet impératif est bien le nôtre. On peut assumer le combat, montrer les dents et sortir les griffes pour anéantir l'adversité d'où qu'elle vienne, sans perdre de vue l'indispensable bienveillance qui nous guide. C'est une question d'éthique, cette règle d'or qui trace les lignes de force et forge notre intime conviction. Elle ne se confine pas en comité. Elle est disséminée un peu partout, médicale, scientifique ou politique. Elle s'immisce dans l'information, l'image, l'enseignement, la philosophie, la culture et la création, nous parle à voix basse et remonte jusqu'aux plus hautes instances. La bienveillance est la loi du plus faible, la défense du plus vulnérable. C'est l'éloge de la fragilité et l'école du respect. Nous sommes sous la sauvegarde les uns des autres. Les bouddhistes appellent cela l'interdépendance. La charité chrétienne y puise ses principes de protection. Et si aujourd'hui les valeurs ont plus de crédit au coffre que dans les cœurs, si la morale prête le flanc à la caricature, on aurait tort de jeter le bébé avec l'eau du bénitier. Cette dimension de sagesse nous fait cruellement défaut. C'est elle qui donne sa légitimité à notre pouvoir sur les êtres. Une personne qui vous aime, c'est quelqu'un qui vous a à sa merci, mais qui n'en profite pas. Cette maxime vaut pour tous les domaines de l'autorité. Le pouvoir d'aimer ou de nuire est un espace choisi, une liberté intime qui pose les jalons de notre conscience et nous situe quelque part entre l'ego et l'égal sur l'échelle de Richter de l'altruisme, cette onde capable d'amortir les séismes du quotidien. Si on trouve parfois dans nos mémoires des instants empreints d'une paix profonde, où tout semble à sa place, où rien ne semble pouvoir perturber la bulle d'un bonheur parfait et qui reste à jamais gravé dans nos cœurs comme une grâce. Le souvenir de ces instants nous ouvre le champ des possibles comme une lueur d'espérance au bout d'un tunnel quand le désarroi nous accable. Sans qu'aucune notion de morale ne vienne teinter ces moments de l'ombre d'un jugement ou de la moindre trace de religion, leur qualité dévoile un pilier de notre nature profonde. La douceur est un organe vital qui permet à l'âme de respirer la paix. Dès la naissance, nous n'aspirons qu'à ce nectar. Nous sommes les abeilles de ce miel. Toute vulnérabilité appelle une protection. Sans l'instinct maternel, la vie n'aurait aucune chance d'échapper aux dangers qui la guettent. Nos âmes sont fragiles et sont le rempart les unes des autres. Au fil des générations, dans cette course de relais, nous sommes tour à tour murs d'enceinte, boucliers, éclaireurs. Lorsque le lion dévore la gazelle, ou quand l'aigle royal, majestueux et cruel, fond sur sa proie sans état d'âme, la nature ne connaît ni regret ni remords. Comme le souffle du vent pousse la voile d'un bateau, la bienveillance inspire l'humanité. Là où règne l'indifférence dans la mécanique de l'univers, l'homme installe la douceur de vivre. Pour terminer cette lecture, je relis quelques lignes qui me paraissent convenir tout particulièrement au texte « Au temps que nous vivons », Yves Dutheil ayant résumé dans ces quelques phrases ce qu'il pourrait penser des informations entendues à la télévision ces jours-ci. Je lis « L'humain est la machine la plus sophistiquée que la nature ait engendrée. Il développe des ressources inépuisables d'intelligence et d'imagination. Il a domestiqué des espèces sauvages, dompté des environnements torrides ou glacés, apprivoisé des milieux hostiles et dangereux. Il a réussi à survivre à bien des cataclysmes. Sa puissance et sa conviction font de lui l'être le plus délicieux ou le plus détestable que la Terre ait porté. À bientôt, chers amis. À bientôt, chers auditeurs. N'oubliez pas, je lis pour vous sur Radio Alliance Plus.
Partagez vos événements avec nos auditeurs en nous écrivant à agenda@radioalliance-plus.fr.